Bryson, or watch it.
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Briançon, Boris Pino, Grégoire Dufiore et la prise de son est assurée par Anthony Thomasson, la réalisation signée Daniel Finot ce soir, autour de moi, Corinne Rondeau, Charles Garçon, Thierry Chaise à notre affiche. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, Happy End de Michael Haneke et Le sens de la fête d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Présent également ce soir, Boris Pino qui va surveiller le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires sur ces films et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir à l'occasion du Festival du Livre de Moinsartou. On fait gagner le livre Imago de Cyril Dion publié chez Actes Sud. Et nous ouvrons cette dispute avec Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, ce film dont le producteur exécutif est Ridley Scott, réalisateur de Blade Runner, propose donc une suite de celui-ci. 30 ans après les événements du premier film, l'officier K, jeune Blade Runner, qui travaille pour la police de Los Angeles, découvre un secret enfoui depuis longtemps, trois petits points. Une révélation qui va l'amener aussi à rechercher Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui lui a disparu.
It's quarter to three.
I missed you, baby sweet.
There's no one in the place.
It was a day.
Except you and me.
It was a day.
Humanity cannot survive.
Replicants are the future of the species. But I can only make so many.
He's got every gun in the city. I've got you.
We have to stop him.
What do you want?
I thought you might be able to help me with the case.
He's constructing an army.
Tell me what you remember. Everything.
They know you're here.
He's on your tail.
I'm coming with you.
What's the plan?
We don't run.
You do not know what pain is yet. You will learn.
Elle est presque reposante, la bande-annonce, quand on l'écoute comme ça à la radio et quand on a vécu le film, comme c'est mon cas il y a quelques heures, dans une salle très bien équipée au niveau sonore où les fauteuils vibrent de ces infrabasses qui ne sont pas particulièrement économes au niveau de la bande sonore. Ça, c'est un premier élément. Blade Runner 2049. Tiens, on pourrait commencer par là. Vous en attendiez quoi, Thierry Chaise, avant de dire ce que vous avez vu?
Alors, j'en attendais beaucoup parce que c'était mis en scène par Denis Villeneuve.
Point. Corinne Rondeau?
Rien.
Charlotte Garçon?
Pas énormément non plus,
bon,
j'avoue.
Vous développerez dans un instant. Alors, point virgule.
Point virgule. Oui, donc c'est mis en scène par Denis Villeneuve, qui arpente des genres très différents. C'est lui qui a fait Sicario, Prisoners, et qui avait fait l'année dernière Premier Contact, qui était, je trouve, moi en tous les cas, un film de science-fiction, où les effets spéciaux étaient plutôt au service d'une histoire, et il essayait d'imposer quelque chose. Le premier Blade Runner m'avait, moi, un peu ennuyé à l'époque, donc je me suis dit, peut-être qu'il va revitaliser et redonner du souffle. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, lorsque vous l'avez vu en salle, moi je l'ai vu en projection de presse, on vous distribue au moment où vous rentrez une grande feuille vous indiquant tout ce qu'il ne faut pas dire du scénario. Donc moi,
la sortie du film. Les embargos des productions presse.
Ce qu'on ne fait jamais habituellement, on ne dit jamais, à part quand peut-être Usual Suspects, où on dit ne dites pas.
Star Wars, on pouvait rien dire non plus. Dernier, rappelez-vous.
Oui, mais là, il y a une page très détaillée. Et donc moi, je me suis dit, ça va être un scénario incroyable, avec des dialogues hallucinants, des surprises totales.
Mais si on vous le donne avant, donc c'est gâché pour vous, alors.
Non, mais c'est, on regarde pas. Enfin, voilà. J'ai pas regardé.
Le lit après. Il est malin, Thierry Chef.
Voilà. Mais par contre, je vois, mais vraiment une page entière. Alors, moi, il y a une chose qui m'a plu dans ce film. Commençons par là. C'est que j'aime beaucoup la lumière qu'a fait Roger Deakins. C'est la manière dont il envisage ce futur-là. Ensuite, ce qui m'a moins plu, voire déplu, c'est justement toute l'histoire. C'est-à-dire faire 2h45.
43, n'exagérons pas.
43, exactement. Non, soyons, il faut être précis, il faut être très précis. Sur quelque chose où on a vraiment l'impression d'être en avance sur, en effet, quels sont les secrets qui vont être donnés, pourquoi va-t-il aller rencontrer Harrison Ford, que va-t-il découler de cette rencontre.
Bon, il ne faut pas trop en dire, hein. Anthony Thomasson, qui est aux manettes, veut voir le film ce week-end, donc il ne faut pas divulgâcher.
Et alors, le problème, c'est qu'on divulgâche en regardant, c'est-à-dire qu'on se dit... Donc moi je trouve le travail fait sur la lumière qui change la plupart des films aujourd'hui de science-fiction. Lorsqu'on voit un Alien Covenant qu'avait réalisé Ridley Scott récemment, au moins il y a quelque chose, il y a un univers. Simplement, il faut quand même raconter un moment une histoire, surtout quand on prend 2h43 pour le faire, et que là, par rapport à mon attente forte du départ, j'ai été un peu déçu.
Bon, voilà pour ce premier point à partir richesse. Corinne Rondeau.
Écoutez, moi je ne suis pas arrivée à rentrer dans le film et pourtant je suis très preneuse de ce type de film de science-fiction, d'autant que moi j'avais beaucoup aimé le Blade Runner, parce qu'il avait une dimension très psychologique et puis c'était une manière aussi très décalée de rendre compte d'une conscience de ceux qui n'en auraient pas, en l'occurrence des réplicants, mais qui étaient aussi considérés comme des esclaves. Voilà, donc c'était des réplicants qui s'étaient sauvés, qui s'étaient révoltés, puis sauvés, et puis... Le formidable Rutger Hauer à l'époque, qui était génial, d'une sensualité, d'une force vitale incroyable. C'est vrai que Harrison Ford aussi était dans sa maturité. Voilà, c'est quand même le héros, je dirais, du cinéma de ces années-là, de ces années 80, ouais, c'est ça.
Début 80, oui.
Et je dois dire que, bon, moi, je regarde régulièrement Blade Runner. Enfin, c'est vraiment un film dont j'ai été intriguée parce qu'il me mettait toujours à... j'étais à la porte toujours de... Il ne faut pas franchir le seuil d'une certaine énigme. Et j'aimais beaucoup cette dimension de l'énigme, notamment presque le rapport oedipien du film qu'il y avait, puisque le Tyler, Tyrell, le grand...
Fabricant
des androïdes, le Nexus 6, on va lui crever les yeux dans le Blade Runner premier, donc je ne dis rien pour notre... pour derrière la console, à la régie, tout va bien. Et c'est vrai que il y avait quelque chose qui m'intriguait et je ne voulais pas fermer. Et le film Blade Runner finissait sur une énigme. Voilà, il va partir avec cette... Harrison Ford part avec cet androïde, il est amoureux. Et il y avait tout le long du film de Blade Runner l'idée, est-ce qu'Harrison Ford, le tueur de ces réplicants, est-il lui-même un réplicant. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cette reprise Denis Villeneuve, de cette ambiguïté-là.
Bon, c'est le même scénariste aussi. Hein, que
c'est le même scénariste, et en même temps, on voit qu'on les éléments qui sont névralgiques dans le Blade Runner, le premier, sont repris, mais ils sont dans des circonvolutions permanentes. Ce qui fait que la ligne, bien sûr, elle est moins droite, et que par ailleurs, le film est beaucoup plus long à voir, pas dans la durée, puisque les films se... Oui. Si on enlève la première version, les Final Cut de l'époque, ils sont à peu près la même durée.
Oui, on est à 2h38, je crois.
Mais le Blade Runner, moi, quand je
crois.
Je veux dire, si je peux le revoir une fois par an ou une fois tous les deux ans, je veux dire, 2h43, je le fais. Donc, j'ai pas d'ennui, on va dire. Ou alors, je suis enveloppée par cette lenteur que nous donnait le Blade Runner. Là, il y a aussi... Dans le Villeneuve, le 2049, quelque chose d'un ennui qui n'est pas sur le même mode de l'ennui, indépendamment de la facture ultra sophistiquée. Je dirais, c'est un joyau formel, dois dire. Mais on ne peut pas faire un grand film parce que c'est un joyau formel. Ça, c'est pas possible. À la limite, quand on revoit le Blade Runner où il y a des défauts, je dirais, liés simplement aux techniques, elle passe parce que le scénario, il verrouille tout. Il verrouille tout. Et puis les acteurs, indépendamment des caractéristiques qu'ils incarnent, même s'il y a des figures dans le nouveau, ils avaient quelque chose. Ils avaient une sorte de singularité, de personnalité qui excédait même l'idée répliquant humain. Voilà. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui est un peu pour moi trop cadré, trop propre finalement, et voilà.
Je reviendrai vers vous, Corinne Rondeau. Bien sûr, Charlotte Garçon, Blade Runner 2049. Hein.
Alors, je ne sais pas si c'est le fait de prendre le même scénariste ou si ça vient du sorte du respect de Denis, de l'amour et de l'admiration de Denis Villeneuve pour l'original, mais moi j'ai eu l'impression que ce film était embourbé dans la question de l'origine, et y compris malheureusement dans la question de l'origine du premier film, enfin de l'original du premier film. Et du coup, connaissant le premier, ayant vu le premier, mais sans du tout le connaître comme vous, Corinne, j'ai eu l'impression de le revisiter, effectivement, de le revoir. Des choses des souvenirs sont revenus. On voit Harrison Ford plus vieux, etc. Mais et d'en revisiter en partie les décors, mais beaucoup plus sophistiqués avec bien sûr les moyens d'aujourd'hui. Mais j'ai eu l'impression de me promener dans une ruine, quoi. Et c'est pour ça que je n'y suis pas non plus entrée. C'est-à-dire que c'était la ruine du film précédent, quoi. J'ai vraiment eu l'impression qu'on ne sortait jamais de cette impression, de cette mélancolie, en fait, par rapport à un original perdu. Alors, perdu parce que forcément, quand on vient en 2015 ou 2016 et qu'on est en train d'en refaire un, bah oui, il ne pourra pas être celui. Et vraiment, j'ai trouvé ça très, très, enfin, de plus en plus, ça m'a mise de plus en plus à distance au lieu de me toucher. J'allais dire, ça pourrait, d'une façon un peu comme ça, abstraite, intellectualisée, on pourrait se dire, mais c'est très beau, cette idée que finalement il s'enveloppe autour du premier film, et c'est traduit dans le film par notamment la scène d'amour, une scène d'amour avec une idée formelle, voilà, assez intéressante a priori, c'est-à-dire qu'il y a deux femmes et un homme, et qu'il y en a une qui est un hologramme et une qui est censée être une vraie femme, et que les deux n'arrivent pas vraiment à coïncider, l'une doit prêter son corps à l'autre, si j'ai bien compris, l'incarnation ne se fait pas vraiment, c'est voulu dans l'histoire du film, mais je me dis que c'est exactement ce qui se produit pour ce deuxième film par rapport au premier.
Ouais, alors plusieurs couches peut-être de lecture aussi sur ce film. Il y a quand même aussi un effet, mais alors qui n'est pas à son avantage avec Twin Peaks Returns. Qu'est-ce qu'on fait d'un objet 25 ans après ou 35 ans après? Bon, il faudra qu'on fasse quand même une dispute, Boris Pinot, sur Twin Peaks en entier, mais ça, on le fera à la sortie du coffret DVD, ça va être pour Noël, il n'y a pas de doute. Ici, on a cet effet-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnages qui ont vieilli? C'est toujours intéressant, d'une durée temporelle qui est la même entre la sortie du film et l'espace fictionnel. Donc ça, c'est toujours riche. Mais le premier problème, c'est ce que vous disiez d'une certaine façon, Corinne Rondeau, c'est que Denis Villeneuve, il fait des plans là où Ridley Scott faisait quand même de la mise en scène. Et la question des scénarios n'est pas non plus étrangère. Hier, on parlait du livre de Don DeLillo, Zero K, qui s'intéresse à un sujet lui aussi d'anticipation, vie éternelle, transhumanisme, mais qui n'en fait pas grand-chose qu'énoncer des questions. Et donc là, les questions sont à peine énoncé. En 2h43, on pourrait imaginer qu'il y ait quelques éléments de réponse.
Mais c'est une question, non? C'est qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que...
Ouais,
non,
voilà, après, on peut
y en a d'autres.
Oui, il y en a un peu d'autres. Mais le problème, c'est que je vais divulgâcher une chose, mais qui n'est pas un divulgâchage complet. Je regarde toujours Anthony en disant ça. À la fin du film, on ne peut que craindre Blade Runner 2050 ou 51, 52, le temps de le faire. Quand même, on peut le craindre. La fin est ouverte, mais pas de la même façon que le premier. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont dérangeants, mais ça, c'était déjà le cas dans d'autres films de Denis Villeneuve, cette volonté de faire auteur. Hein, donc là, en citant Tarkovsky ou en citant enfin, tel ou tel. Et du coup, n'inventant pas grand-chose. Moi, je préfère nettement, ce que je préfère de lui, c'est Sicario, où il assume une mise à jour du polar nerveux. Là, il revisite, moi, le dernier, vous écoutant, Corinne, mais quel dernier film de science-fiction avec un univers qui m'est vraiment plu. J'ai pensé tout d'un coup à Bienvenue à Gattaca, qui n'est pas tout à fait récent, mais qui a imposé comme ça une vision telle qu'on n'avait pas encore eue. Et enfin, dernier élément, tiens, pour relancer la discussion, je pense que c'est peut-être en fait un remake de Drive, déguisé.
Ah oui.
puisqu'on a un chauffeur tueur qui va sortir de la route qu'on lui a tracée. C'est évidemment Ryan Gosling, aussi expressif dans Blade Runner 2049 que dans Drive, et avec la même absence de metteur en scène pour moi dans les deux cas. Thierry Chaise, qu'est-ce que vous faites de cette hypothèse?
C'est vrai.
C'est un remake de Drive.
Alors oui, parce que je serais moins dur que vous sur Neville Lam, mais sur Ryan Gosling, c'est en effet un chou. Ça devient un film de Ryan Gosling maintenant. On a l'impression qu'on le pose quelque part. Et en fait, il joue. Alors, qu'il soit en train de danser dans La La Land, qu'il soit en train de conduire une voiture dans Drive, ou là, il y a quelque chose où d'un seul coup, à force de ne rien faire et de ne pas jouer, il paralyse déjà un film qui n'avance pas très vite. Et donc, c'est dire que si tout était trépidant, on peut dire « Ah, d'un seul coup, on a enfin quelqu'un qui nous calme. » Et j'ai l'impression, alors est-ce qu'il n'est pas dirigé? Est-ce qu'on n'arrive pas à le diriger? Est-ce que d'un seul coup, on a envie de le poser là parce que d'un seul coup, c'est son potentiel séduction fort? Harrison Ford n'était pas non plus quelqu'un d'extraordinairement expressif. Mais à côté, là, d'un seul coup, il me paraît prendre une...
Ouais, parce qu'il a une fragilité.
Voilà,
aussi,
et quand on voit Gosling, il devra en avoir. Alors peut-être qu'elle est intérieure et qu'on ne la voit pas.
Charles Garçon.
Oui, alors là, moi je pense par contre que Ryan Gosling est là comme ça correspond à la quête un petit peu d'humanité et d'émotion et du film et du scénario, et à l'intérieur du scénario, puisque c'est plutôt une caution de vulnérabilité émotionnelle. Alors ça fonctionne pas, mais c'est cohérent, disons, cette recherche-là, elle est cohérente, y compris dans d'autres films, comme ce mélodrame de Derek Cianfrance dans le...
Oui, Behind the Pines, voilà. Comme ça, The Place Behind the Pines.
Donc il a quand même un potentiel mélodramatique qui n'est pas ici, qui ne se déploie pas dans ce décor à la Zviagintsev, plus que Tarkovsky peut-être. mais en tout cas, je pense qu'il est là pour ça. Et il n'est pas là pour jouer...
Corinne Rondeau.
Autrement.
Il faut rappeler quand même pour les auditeurs qui n'auraient pas encore vu le film, qu'il joue le rôle d'un réplicant qui est au service, c'est-à-dire qu'ils sont obéissants. Ils ne peuvent pas désobéir.
C'est la nouvelle génération,
comme
absolument.
L'ancienne génération. Donc il a parfaitement le prototype du type obéissant. Et moi, je reviens sur ce que disait Charlotte tout à l'heure, parce que je suis assez d'accord avec elle sur l'idée d'un vous avez utilisé le enveloppé ou quelque chose comme ça, un mot. Et je trouve que c'est le film de Denis Villeneuve. C'est un film qui joue dans le repli. Et dans le repli à la fois originaire, c'est-à-dire qui est lié à la mémoire. Ça, c'est évident. On a l'impression que tout le film, les circonvolutions que j'évoquais tout à l'heure, sont liées à des replis de mémoire dont on veut essayer de chercher où se trouve une certaine forme de vérité, puisque le film commence sur le fait de déterrer sous un arbre... un squelette, et ce squelette, c'est... Bon, alors, je vais pas aller jusqu'au bout.
Non, ça prend une bonne heure, ça.
Non, mais je veux dire, c'est assez étonnant. Je veux dire, l'idée que ce désert, avec cet arbre, ce seul arbre, c'est un arbre généalogique. Enfin, il faut arrêter. C'est d'une telle banalité, parfois, les plans sont beaux, et puis il y a un signe. Enfin, il y a un objet, c'est un signe, et ça vous envoie des trucs en disant bon, mais il n'y a que ça. Mais je pense qu'en fait, le film de Villeneuve est une manière de laisser des petites pierres du petit poussé, qui est une manière de reconstituer en fait toutes les questions de Blade Runner qui étaient en suspens et qui sont sur.
Il ne faut jamais faire.
Non, mais bien sûr. Mais je pense qu'en fait, Charlotte a encore parlé d'une sorte peut-être d'admiration, de fascination pour le Blade Runner et Ridley Scott. Donc Ridley Scott ne risque rien encore. Hein, il a récupéré ses aliens. Il récupère son Blade Runner. Il y a aucun souci. Mais c'est quand même le fils de Denis Villeneuve. Et on se rappelle que Moïse, qu'a fait Ridley Scott pour son frère, étaient des questions de filiation. Et récupérer son alien avec la succession des aliens qu'il a fait était une manière de récupérer une origine. Et le film de Denis Villeneuve est la question. Vous avez utilisé ce mot-là, Charlotte, sur la question de l'origine. Et la dimension oedipienne, elle est massive dans ce film-là. Elle est massive, mais elle est tronquée. Elle est tronquée et je ne suis pas sûre que la fin du film ce soit un 2005-70, mais plutôt au contraire de remettre les choses à l'endroit même de leur origine du premier Blade Runner, qui était justement réplicant ou pas réplicant. Et à quoi se joue le fait d'être réplicant ou pas? À la question de... Voilà, je vous le laisse.
Charles Garçon.
Vous savez qu'il doit répéter des mots dans le film pour être testé à chaque fois.
Il est en phase, s'il n'a pas dévié.
En fait, ce sont des vers de feu pâle de Nabokov. Ouais. On aperçoit un livre de Nabokov par ailleurs dans le film.
Et, le même.
En fait, c'est une sorte de poème, c'est une sorte de récit qui est fait à partir d'un appareil de notes autour d'un long poème de presque 1000 vers. Et je pense que c'est une sorte de clé, là encore, presque trop évidente de la structure de ce film, c'est-à-dire faire un appareil de notes autour du premier et croire que ça peut faire un film. Enfin, en tout cas, nous l'offrir comme un film. Et du coup, nous, il nous manque du récit, on a quelque chose d'extrêmement cérébral, quoi.
Oui, mais cérébral, parce qu'en fait, tout le film est désincarné, vous l'avez dit aussi, mais la désincarnation est tout à fait assumée par Villeneuve, avec cette question holographique, mais aussi sur le... Rappelez-vous, Blade Runner était totalement baroque, celui-ci, pour reprendre encore un mot qui a été utilisé, mélancolie, on a des hologrammes de Frank Sinatra, d'Elvis Presley, donc il y a une espèce de retour antérieur au Blade Runner, mais qui renvoie encore à une question d'histoire. D'où viennent les hommes? Et puis c'est Las Vegas, c'est l'idée que bon, il y a de la pollution, c'est la fin du monde, que Las Vegas c'est la ville du fric, du jeu et des apparences, et que tout ce film est une apparence. Il ne fait que travailler sur la question du fantasme de Denis Villeneuve. Il n'y a que ça, du début jusqu'à la fin. Et la question de l'agent K est la question du fantasme. C'est un film pour névroser, donc il faut que tout le monde y aille.
Non, c'est un film qui a, en tout cas par nous, été accueilli brillamment par la critique.
Ah, mais j'ai lu la presse là tout à l'heure avant de.
Qui a dit à 95% qui parle de chef-d'œuvre.
Ah oui, mais vraiment. Et d'une presse très différente qui estime qu'on tient là le renouveau du blockbuster. C'est ce qu'on attend au 21e siècle, un blockbuster qui pense. Bon, je ne sais pas combien de milliards de dollars ça a coûté à faire. Mais c'est très beau, c'est Olafur Eliasson qui a fait la plupart des décors aussi, des lumières, j'ai l'impression, remarqué, ça emprunte beaucoup à l'art contemporain. Enfin voilà, beaucoup d'emprunts, nous on est quand même assez moyennement convaincus, si on résume nos quatre avis, et sur Twitter, Boris Pinault, ça...
Simon Merer a adoré le film, mais reste un peu dubitatif face à l'acting 2.0, pas d'expression, écrit-il, de Ryan Gosling.
Ouais.
Et Mathieu Tufraud salue comme vous Thierry le travail de Roger Deakins, le maître des couleurs chaudes.
Bon, Blade Runner 2049, ça a plutôt bien commencé en salle, beaucoup moins bien que Le Sens de la Fête dont on va parler tout à l'heure. Mais enfin, on verra quelle sera sa carrière à suivre dans la dispute Happy End, puis donc Le Sens de la Fête. Si vous avez là encore des avis à partager, n'hésitez pas à le faire en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le deuxième film à l'affiche de Dispute Cinéma ce soir, c'est Happy End de Michael Haneke, qui lui aussi a un accueil assez homogène de la presse, mais pas tout à fait dans le même sens. On va en parler. Le titre du film, Happy End, c'est déjà en soi donc un sujet d'amusement quand on connaît la filmographie du cinéaste autrichien, peu habitué à faire remuer nos zygomatiques. Ce film qui est à nouveau tourné en France, cette fois à Calais, un synopsis en deux lignes qui décrit son sujet, donc je le cite intégralement. Tout autour le monde et nous au milieu aveugle, instantané d'une famille bourgeoise européenne.
Je suis prête. Est-ce que tu veux t'asseoir un peu avec nous?
Non, merci.
Étrange.
Qu'est-ce qui est étrange?
Que je sois là, présent.
Et alors?
Alors rien.
T'as un crédit considérable, Pierrot. T'es mon fils et t'es le futur patron.
Maman.
Tu n'aimais pas maman. Tu n'aimes pas Anaïs. Tu n'aimes pas cette Claire et tu ne m'aimes pas non plus.
Pourquoi t'as fait ça?
Quoi?
Thank you.
une fois, la musique qu'on entend dans la bande-annonce est bel et bien dans le film. Hein, elle est même interprétée par l'un des personnages du film. Chat de garçon sur Happy End de Michael Haneke.
Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais comme je m'attendais à prendre un oreiller sur la figure, je m'attendais à quelque chose de très très sadique envers le spectateur de la part de Michael Haneke, qui n'est pas du tout l'un de mes cinéastes de prédilection. Et du coup, devant la mollesse de ce sadisme, quand même très relatif dans ce film, j'ai trouvé le film, finalement, j'ai un peu moins rejeté, j'étais un peu moins en colère qu'à mon habitude en voyant ce film. Et j'ai trouvé que le côté enchaînement implacable qui m'enrage tout le temps dans ce type de scénario où les blocs finissent par s'imbriquer pour, bien sûr, une fois de plus, nous dire le fondement du mal bourgeois. Finalement, j'ai aimé le côté un peu défait, me semble-t-il, dans la structure narrative du film. Il y a bien un récit, on voit bien des choses arrivent dans cette famille, mais c'est moins une famille qui est en cours d'explosion ou de décomposition que me semble-t-il, le film lui-même, qui procède par fragments, comme ça, enfin par morceaux, et du coup, qui laisse un peu plus de jeu, qui, moi, m'a laissé un petit peu plus de respiration en tant que spectatrice, et je me suis sentie moins prise en otage qu'à l'habitude. Donc, ma première impression est plutôt moins pire.
Ouais, on voit avec la relativité de cette position. Corinne Rondeau.
Alors, moi, sur le coup, à la sortie de la salle, j'étais mitigée. Je dois dire que ce film m'est resté dans la tête longuement. Longuement, et je crois vraiment aimer beaucoup ce Haneke. Je suis assez d'accord avec Charlotte sur tout un certain type de film de Haneke qui nous étranglait, parce qu'il y avait une dimension critique qu'il souhaitait de la part du spectateur, mais il était aussi pris au piège. Et là, je trouve qu'il y a d'abord, vous parlez qu'il n'y a pas de sadisme, pardon, mais la cruauté est monstrueuse, enfin, me semble-t-il, justement, par le non-dit. Oui, oui, d'accord, mais bon, après, c'est la place qu'on veut bien occuper à l'intérieur d'une famille, où Haneke, me semble-t-il, a le sens des générations. Donc on a le grand-père gâteux, mais qui n'est pas si gâteux que ça, mais qui relève d'une certaine époque, et cette époque, c'est peut-être aussi amour, l'homme qui avait, puisque je crois même que Isabelle Huppert a conservé le même prénom, non, Anne, dans les deux
films.
Non, c'est pas ça,
je
non
sais pas,
je me trompe,
George,
oui, enfin les prénoms. Il me semble que c'est la suite, quoi, il y a une famille qui se suit. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu quelque chose d'une histoire. Je sais que c'est un lecteur de Kafka. Il avait même fait un film pour la télévision autrichienne ou allemande, je ne sais plus.
Le château.
Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui a lu le verdict. C'est-à-dire que les pères peuvent cacher leur haine. Et la part du fils, c'est la part de l'amour, mais qui se transforme en haine. Et le fils s'enfuit en disant à ses parents, je vous aime. Il va se suicider. Il y a une génération... je dirais, bon, il y a Kafka, mais je veux dire, il y a toute une tradition, enfin, pas qu'une tradition, mais toute une histoire, où les fils sont sacrifiés. Le film relève d'autre chose. C'est peut-être les enfants qui peuvent sacrifier les autres générations. Et là, on va voir plusieurs générations, donc le vieux gâteux, qui n'est pas si gâteux que ça, qui va estimer qu'il a quelque chose à faire, mais qu'il ne peut pas le faire, il va le demander à sa petite-fille, dont on découvre dès le début du film, quand même, sur une version éthologique. On a un smartphone qui ouvre le film. Une femme, au fond, est en train de faire ses ablutions du soir, lavage de dents. Et la petite fille, enfin, on va découvrir que c'est sa fille qui tient le téléphone. On va voir qu'elle inscrit tout ce que sa mère va faire avant même qu'elle le fasse.
22h28, donc,
voilà,
lavage de dents.
Lavage de dents. Donc, la petite anticipe les habitudes et ce qu'elle va condamner de sa mère en le disant, puisqu'elle va faire un geste irrémédiable à l'égard de sa mère, elle va écrire « Oui, parce que c'est celle qui sait tout, et maintenant elle n'aura plus à me dire qu'elle sait tout. » Et on voit bien que dans les premières minutes du film, il y a quelque chose de cette petite fille qui est peut-être la société elle-même qui est en train de juger quelque chose de cette jeunesse aussi. Et la petite qui est absolument, pour moi, elle représente la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est celle qui a les yeux, c'est celle qui est la plus méchante, d'une certaine manière. Et cette famille bourgeoise, c'est la famille ultra romantique qu'on peut trouver. D'ailleurs, il les filme comme ça dans un restaurant à Calais. C'est une photographie d'un tableau du 18e, on pourrait presque croire. Hein. Tellement c'est pur, c'est net, c'est propre. Et en fait, se joue à l'intérieur de ça le fils qui ne dit rien, la fille qui ne dit rien. Ils se parlent toujours du malheur de l'un ou de l'autre, mais on ne sait jamais de qui ils parlent. Ils ont une attention mensongère. Et tout ça passe dans leur habitude de faire de l'argent, de cocufier les uns, de tromper les autres. Et à l'intérieur de ça, vous avez l'autre fils, le fils plus âgé, le cousin de la petite fille, donc, qui lui est complètement déjanté. C'est-à-dire le pauvre mec qui a envie de dire les choses qu'il ne peut pas dire. Il y a une scène terrible dans ce restaurant où il pose d'ailleurs, où la mère fait quelque chose, Isabelle Huppert fait quelque chose à son fils, je vous le conseille, mais c'est une manière de dire, crie mais ne parle pas. Et toute cette question de maîtrise dans l'attention mensongère relève de la cruauté absolue, non pas de la bourgeoisie, mais de toutes les classes sociales, à l'égard de ce qui monopolise l'attention de d'Anneke, qui est Calais. Il se passe Calais est une zone géographique importante politiquement parlant.
Thierry Chaise sur Happy End.
Et, alors moi j'avais vu à Cannes, pas beaucoup aimé, donc je l'ai revu. Je me suis dit peut-être que c'est dans le. Et j'ai eu la même impression à Cannes en voyant ce film-là, et le film de Polanski. Si j'avais vu sans dire qu'il était réalisateur, que c'était quelqu'un qui essayait de faire du Haneke, de bout en bout, qui compilait un petit peu ce qu'on a aimé, donc un petit peu de Benice Vidéo, mais voilà, moderne, un petit peu d'amour et tout. Et ça fait un ensemble que j'ai trouvé totalement disparate. En effet, on a l'impression qu'il veut dire des choses, mais on parlait tout à l'heure de Denis Villeneuve qui ne dit pas grand-chose, et moi, ce film ne m'a pas dit non plus grand-chose. Alors oui, il y a Calais, oui, il y a les migrants, oui, il y a la famille bourgeoise, oui, il y a chaque élément, mais chacun de ces éléments, je suis, moi, gêné aussi par une interprétation que je trouve inégale pour être dans la mesure. Justement, le frère qui joue celui qui est déjanté, c'est vraiment à un moment une caricature. J'ai trouvé que tout était une caricature et que du coup, l'arrivée en effet des migrants devient une scène presque gratuite et manque justement de force. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé.
Non.
À un moment, être en pote. Et bien, moi, lorsque je l'ai vécu, je me dis, ah, c'est donc un truc de plus. C'est quelque
non,
chose
non,
en
non.
plus.
Là,
c'est l'élément. C'est
j'entends ce que vous dites, mais je crois qu'il. Pardon, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais. Parce que justement, je crois que les gens pourraient s'énerver de dire, ah, mais voilà, et les migrants, c'est que ça. Et je crois qu'en fait, Anneke a raison. Les migrants, ce n'est que ça dans notre société. Ce n'est que ça. Des silhouettes et des gens.
Ils n'ont pas vraiment la parole.
Et il y a quelqu'un qui veut prendre la parole à leur place. Qui ne l'aura pas non plus. Et je trouve que cette manière d'être ténue, pauvre, presque mal à l'aise, qui met mal à l'aise, parce qu'on veut faire parler les autres, mais quand les autres, on leur donne pas la parole, faut arrêter de vouloir parler à leur place. Et je trouve que là, Anneke, il est méchant avec nous. Il est méchant de nous dire, c'est pas la peine de prendre la parole de gens à qui vous ne donnez pas la parole. Parce qu'il les fait venir, il regarde avec des grands yeux cette assemblée de gens, tout propre, donc sur des nappes blanches, avec un bel horizon devant eux, qui sont leur réussite. Je veux dire, c'est encore des gens qui sont dans l'idée du bonheur de leur réussite. Alors que ce film est en train de démontrer proprement la médiocrité intégrale de ceux qui réussissent.
Oui.
Il faut savoir un peu si.
Je trouve que c'est fait de manière justement très très lourde. Le Mathieu Kassovitz, ses relations, amoureuses, et ses tromperies. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est des archétypes qui sont pris. Moi, ce que j'ai aimé chez Anneke, quitte à ce que ça me dérange, c'est que justement ça me fasse quelque chose, ça provoque quelque chose en moi. Là, je me suis ennuyé de bout en bout, et je vois Jean-Louis Trintignant refaire ce qu'il a fait dans Amour, pas plus, pas moins. Et j'ai vraiment le sentiment d'un film qui se cite. Et puis il y a une manière, même d'utiliser par exemple la variété française, on entend Frérot de la Vega, qui est une espèce de mépris général aussi, qui me gêne.
Ou un regard. Moi, j'avais pas du tout aimé Amour, hein, je l'ai dit souvent ici. Mmh. Et là, je trouve Jean-Louis Trintignant extraordinaire. Je trouve qu'il y a une qualité de jeu
folle, comme la jeune fille, mais je ne suis pas le seul à le dire. Boris Pinault, quelques commentaires et je reprendrai la parole.
Kevin Naltet qui écrit sur Twitter que le seul intérêt de ce film, c'est justement Fantine Ardouin qui interprète la petite fille.
Qu'est-ce que vous avez d'autre comme réaction pour, je continuerai ensuite.
Stéphane Chopek, lui, évoque la dégringolade du maton Haneke. Et Patrick Braganti parle d'un film faiblard dans son scénario et mou dans sa mise en scène. Hormis les quelques séquences avec l'impérial et presque terrifiant Jean-Louis Trintignant, le reste est laborieux et déjà daté dans l'usage des écrans et des nouvelles technologies. Huppert et Kassovitz font le minimum syndical, dissimulant à peine leur ennui.
Bon, nouvelles technologies, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve le début extraordinaire, parce que justement, comme il l'avait fait pour Benny's Vidéo, mais remis au goût du jour, enfin, il y a une utilisation des logiciels qu'utilisent les jeunes gens. Il y a juste une erreur, à mon avis, manifeste, et que la petite fille de 13 ans ne fait pas du tout assez de fautes d'orthographe quand elle écrit. Je parle en connaissance de cause avec les miennes. Donc ça, c'est une petite faiblesse, on va dire, à ce niveau-là. Mais je trouve que le début est assez imparable, qui passe de cet écran de smartphone après un écran de surveillance. Alors, on en a beaucoup vu aussi, des écrans de surveillance au cinéma, sauf que là, il est utilisé d'une façon à la fois comme tableau, mais pas seulement. Moi, j'aurais aimé que le film soit centré alors sur cette petite fille, que ce ne soit que son regard tout du long. Ça l'est presque,
mais c'est incroyable. Elle est très présente,
mais pour moi,
j'aurais vraiment aimé
que le film soit son regard d'un bout à l'autre. Bon, c'est pas le projet, il a pris d'autres chemins, mais je veux dire que pour moi, c'est vraiment l'élément très très fort avec le patriarche. On a vraiment l'arc générationnel complet, comme vous le disiez. Charlotte Garçon.
Oui, d'ailleurs, on voit bien que la scène clé du film, c'est leur conversation. Elle est tournée comme étant la scène importante du film, juste dans un bureau. Voilà, en apparence, c'est une conversation anodine, mais on sent bien la façon dont il cadre est très différente du reste des scènes. C'est vrai que cette question, l'impression qu'il pose comme ça des blocs sans en faire grand chose, moi je la mets plutôt à son crédit. Et on a entendu dans la bande-annonce Jean-Louis Trintignant qui disait étrange que je sois là à présent. Et c'est cette légère démence sénile qu'il a dans le film s'applique au principe un petit peu de cette juxtaposition qui ne force pas forcément le sens. C'est pour ça que y a un soulagement, disons, pour moi, que la critique porte finalement sur l'indifférence. Ce serait pas la banalité du mal, ce serait l'ennui du mal, d'où l'ennui. Mais c'est vrai que Haneke peut quand même difficilement faire autre chose pour nous faire ressentir l'indifférence profonde des uns envers les autres, des uns envers les immigrants, etc., que lui-même susciter une forme d'ennui et d'indifférence. Donc, il fait un très très bon travail, je trouve, sur tout ce qui est plan d'ensemble, sur tout ce qui se passe au fond et qui est très net, à la fois très net, parce qu'on a toujours l'impression d'aller chez l'ophtalmo quand on va chez Haneke. On se dit, ah oui, en fait j'ai une bonne vision, parce que tout est effectif, il y a une profondeur de champ qui est absente de la plupart des films qui aiment jouer sur les plans différents et les focales différentes. Lui, on voit tout extrêmement bien, et du coup le doute est mis sur ce qu'on voit de manière nette, parce que ça, c'est quelqu'un qui est au fond du plan, comme le fils quand il revient. Et j'ai eu cette impression avec le fils, qui effectivement le jeu de l'acteur est épouvantable, mais pourquoi? Parce qu'il est post-synchronisé. Voilà. On voit bien qu'il est un acteur allemand
qui connaît pas un mot de français.
On voit dès le début que ça colle pas. Et je me suis dit, c'est tellement énorme et mal fait que forcément c'est une désynchronisation quelque chose de formel pour
quelque chose du personnage.
Voilà, pour créer une sorte de gêne permanente qu'on a nous spectateurs dès qu'il intervient et dès qu'il est dans le plan.
Il est gênant. Ah oui, il est nécessairement gênant. Non, mais enfin, moi je trouve que ce film est redoutable. Et ce qu'il y a de plus redoutable, c'est cette petite fille. Moi, je trouve que c'est absolument admirable d'avoir fait ce qu'il a fait avec un enfant. Je veux dire, normalement, on dit tout le temps, c'est banalité, la jeunesse, c'est notre avenir et tout, mais faut voir l'avenir qu'il lui donne dans une société qui n'est que sa propre représentation. Et ce film ne se donne avec peut-être une pauvreté que vous manifestez, mais qui est en fait liée à sa propre autoréférentialité. Et donc il montre la toute puissance de leur représentation. Elle est nulle, cette représentation. Et à l'intérieur de cette nullité, il y a ce garçon qui est gênant, parce que c'est toujours le canard boiteux dans la famille qui est en train de dire ce qu'il faut pas, de dire je suis nul. Il y a quelque chose de suicidaire dans sa sensibilité, celui qui ne prend pas sa parole, celui qui se prend pour le moins que rien. Vous avez des caractères faire, mais ça va bien à ce qu'il filme à l'intérieur. Et la petite fille, elle est avec son les appareils, ils sont classés par ordre. Vous avez pas vu? La petite fille a son téléphone. Le père, il a l'ordinateur où il fait la petite fille. C'est ce que son père écrit. Et la petite fille sait exactement ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, sans se poser la question de la culpabilité, parce que ce qu'elle va demander à son père, c'est quelque chose qui est dis-moi, parce que j'ai conscience de mon mal et du mal, dis-moi que je ne serai pas seule avec ça. Et ça, je veux dire, elle est plus adulte que n'importe qui, c'est pour ça qu'elle peut parler à son grand-père qui lui demande quelque chose. Et je trouve que ce film est redoutable sur cet arc générationnel, parce que tous les deux, ils sont toujours à une pointe qui est la fin.
Et ça, je trouve ça admirable. Non, Corinne Rondeau,
ça n'empêche pas qu'il y a des parties, mais interminables, les négociations avec le compagnon Isabelle Huppert, des choses où vraiment, mais alors je veux bien, alors très bien, donc on déconstruit,
mais
il fait exprès.
Mais la vie de ces gens n'est pas plus intéressante que ça.
Et bien le film ne l'est pas.
Il faut pas être trop dans
c'est vraiment un ennui total pour moi.
C'est
réussi.
Dans le Strandom de Stendhal.
Si c'est pour montrer l'ennui, c'est une réussite totale.
Non, mais c'est bien s'il met à distance la preuve.
Moi, ce qui est bien, c'est que j'écoute Corinne Rondeau et je revois le film un peu différemment à vous écouter, Corinne. Vous voulez dire un dernier mot, Charles Garçon, sur Happy End ?
Non, je pense que c'est l'un des films qui est un portrait du cinéaste en jeune fille. Moi, je vois lui, cinéaste, se projetant dans la jeune fille, comme il y en a eu d'autres.
Deux lectures différentes, mais riches, qui vont permettre de voir ou de revoir Happy End de Michael. Comment vous dites, Michael ? Avec, moi, je ne suis pas germanophone, hélas.
Michael.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
On change de genre, quoique. Troisième sujet de cette dispute du vendredi soir consacré au cinéma, Le sens de la fête d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Les deux réalisateurs d'Intouchables, auxquels le film Samba avait succédé, reviennent avec un film choral, dominé par Jean-Pierre Bacri, personnage autour duquel le récit s'articule et l'interprète Max Traiteur depuis 30 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui du film, il organise un mariage dans un château du XVIIe siècle avec un marié très exigeant.
Je vous le redis là, une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes. On se coordonne, on échange, hein, on partage.
Ouais.
Bon, et puis pour finir... J'aimerais bien qu'on évite les tensions.
T'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes.
On garde son calme.
Mais toi, tu vas me regarder, mais vas-y, viens, mais je t'attends.
Ça ne va pas d'être vulgaire.
Et casse pas les couilles, toi.
Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception.
Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ.
La vieille, c'est ma mère, hein.
Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant.
Oui, mais c'est complètement l'esprit.
Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend. Une soirée chic, sobre et agréable. Aouh!
Qu'il vous roulait! Il me fait peur, lui, là.
Je vais voir toutes les mains en l'air, tout le monde est mains en l'air!
Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1. Un poulet!
On a un client important qui nous a fait confiance, hein, pour qu'on lui organise un mariage clé en main.
Je vais vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur.
Eh ben, ferme ta gueule alors, ça sera plus simple.
Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée.
Excuse-moi, tu peux prendre le plateau, là, faut que j'aille dans la cuisine.
Comment ?
Ah, pardon.
Samy, t'es sûr de toi, là, pour les feux d'artifice ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? J'ai dit on se coordonne. Y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie.
Moment magnifique.
Sandy Garden mele walkel nanu poi paakena.
Les gars là, ce soir qui n'est pas déclaré? Mais ne levez pas la main comme ça, levez la main juste comme ça.
Voilà, maximum, c'est vrai.
Ah ouais, quand même.
Bon, bah, je découvre à l'occasion qu'il y a un nombre invraisemblable de bandes annonces. Celle-ci n'étant pas la meilleure, je dois bien le dire, enfin à l'oreille en tout cas. Pour le sens de la fête d'Olivier Nakache, Eric Toledano, qui a fait un démarrage assez tonitruant dans les salles mercredi. Corinne Rondeau.
Bah, merci.
Ah ben voilà, je savais que ça vous plairait de commencer.
Oui, bah écoutez, que dire. Que voilà, bah avec des caractères, comme on vient de les entendre, une fête qui vire mal et un happy end, bah les gens seront contents d'aller le voir. Voilà, le film tourne autour d'une figure très française, un râleur qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, Jean-Pierre Bacri, voilà, qui est un entrepreneur. Et donc l'idée, c'est comment va-t-il payer l'URSSAF et de se débrouiller avec... tout ce qu'il doit faire, puisqu'il maîtrise très bien son affaire. Alors, je dirais que le film fonctionne, je dirais, sur un avenir bienheureux de l'entreprise. On peut marcher, elle peut marcher même mal, et c'est le mal français qui est notre bonheur absolu, hein. C'est-à-dire que, bah oui, nous, c'est le bordel et le chaos. Et là-dedans, il y a une fraternité exceptionnelle. Donc, tous ces caractères, ils sont alors la fille de la banlieue, le prof de français dépressif, donc j'ai dit le râleur, bien sûr, le chanteur ringard, le photographe has-been et la famille bourgeoise. Donc, on a la France. Il y avait la Coupe du Monde, 98, Black Bomber. Puis là, bah, on a la France entière. Bon, ces films commencent un petit peu à me fatiguer, on va dire.
Vous en voyez souvent ?
Ben là, il va y avoir, je ne sais pas, il y a un film, Communion, je ne sais plus. Enfin, il y a
Coexister.
Coexister, voilà. Voilà, c'est une manière de se réunir tous à travers nos différences. Bon,
moi, les différences... Rabbi Jacob, hein, en même temps.
Oui, mais alors, mais... Rabbi Jacob, si vous voulez...
La thématique de la comédie populaire...
Oui, mais moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé à un certain âge De Funès, parce que ça m'énervait beaucoup, parce que j'avais l'impression que les comédies ne finiraient jamais, parce que c'était trop le chaos. C'est-à-dire, De Funès était toujours trop dans l'excès, dans une folie. Alors, évidemment, ça tenait sur un personnage.
Un acteur exceptionnel. Voilà.
Mais là, si vous voulez, j'ai l'impression que au-delà de... Il y a une fatigue. Il y a une fatigue de la comédie dans laquelle, je crois, le ton râleur de Bacri s'inscrit bien. Et alors, tout ça est bien photographié. Je trouve que les acteurs qu'on connaît, mais qui sont pleins de talent, refont ce qu'ils savent faire. Donc, moi, ça m'ennuie un peu, parce que si le délire pouvait être dans cette fête. Et alors qu'en fait, cette fête, ce n'était que pour réunir les gens entre eux, puisqu'à un moment donné, il y a deux Pakistanais qui vont finir par être... Ils sont là pour servir le repas et qui vont faire de la musique. Et donc, et en même temps, il y a une scène comme ça, un peu, moi, qui m'a fait rire, parce qu'il y a, au moment du mariage, il y a un truc qui se passe dans la nuit, je ne vais pas le raconter pour ceux qui ne sont pas allés le voir. Et là, j'ai ri parce que c'était grotesque. Et je trouvais que le grotesque avait un sens, parce que ça prenait une image... pseudo-romantique qui vrillait littéralement dans sa bêtise. Mais quand le plan s'est allongé et qu'ensuite la caméra s'est baissée vers les comédiens qui regardaient ce qui se passait, j'ai trouvé le sentimentalisme du film vrillé en me disant, ben voilà, ce film veut aller vers la grande famille qui va mal, mais on est rassuré puisqu'en fait, le film parle de mariage et effectivement, ce film ne parle que de couple, si vous avez bien vu. Et donc moi, si vous voulez, les couples, ben moi, je préfère...
Vous préférez ? Je vais finir là, ben,
c'est 3 ou 1, mais 2, c'est tellement ennuyeux.
Bon, Thierry Chaise.
Moi, je trouve que c'est 100 coudées au-dessus de toutes les comédies que je vois chaque semaine.
Ah, ouais, parce que vous en voyez beaucoup.
C'est-à-dire que alors celles que tout le monde a vues, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et tout ça, on est quand même, enfin, je veux dire, c'est une autre catégorie. Nakache et Toledano, c'est en effet, alors, Haneke, tout à l'heure, on dit, c'est quelqu'un qui n'aime peut-être, qui n'aime pas ses spectateurs. Nakache Toledano, on peut dire peut-être qu'ils les aiment trop. En tous les cas, qu'ils ont, depuis le début, depuis leur premier court-métrage, qui était Les Petits Souliers, cette envie de réunir, c'est presque leur manière à eux d'être auteurs, de comment arriver, en effet, à mettre les gens ensemble. Je trouve qu'on le retrouve aussi dans le choix des comédiens qu'ils prennent, en effet, puisque je pense que de se retrouver avec Benjamin Lavergne, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, Jean-Pierre Bacri, c'est pas forcément...
Vincent Macken, Judith Chemla...
Voilà, non mais Yediara...
Je ne pensais pas qu'on allait les voir ensemble de si tôt.
Voilà, donc ça veut quand même dire que ces gens-là ont aussi accepté pour ce projet-là. Je trouve qu'il y a une efficacité dans la manière justement dont, dont le film fait. En effet, le film n'est pas dingue, c'est pas The Party de Blake Edwards, mais ça n'a jamais été ce qu'ils ont voulu faire. Moi, je trouve qu'il y a dans cette idée de faire rire, d'essayer de avec vraiment cette obsession-là depuis toujours qu'on peut déplorer, comme on peut déplorer qu'Haneke
ait envie ils creusent leur sillon
et que là ils sont arrivés à quelque chose qui est pour moi le meilleur de ce qu'ils ont pu faire, et que à partir de là je ne me sens, dans beaucoup de comédies je me sens moi pris en otage, je sens justement des ficelles absolument énormes, là je sens qu'il y a quand même un amusement commun, un amusement de ces gens à jouer ensemble. Alors oui, c'est une comédie populaire sans doute qui a moins de développement peut-être que d'autres, mais dans ce genre-là, moi, j'ai pas vu mieux depuis très longtemps en France.
Charlotte Garçon.
Oui, c'est quand même un peu dommage de gâcher son matériau. J'ai eu cette impression, de même qu'il y a tous ces beaux mets comme ça qui sont préparés et qu'on débranche une chambre froide et que du coup toute la viande est gâchée. J'ai quand même eu l'impression de ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait des gags, des idées, etc. qui étaient là, mais à force de tout mettre sans réfléchir profondément au rythme. Alors la réflexion sur le rythme, elle est là, mais je pense qu'il y a quand même des fourvoiements. Ce qui mène le film, c'est le côté, j'allais dire, les affranchis de Scorsese, c'est-à-dire qu'on suit quelqu'un qui rentre dans une cuisine, et comme la caméra, il n'y a pas de coupe, ben voilà, il y a un côté agrégateur, et voilà, c'est le chef d'orchestre, et il va falloir que tous ces bras cassés arrivent à faire quelque chose de réussi. On sent bien qu'il y a ça derrière, cette envie aussi d'orchestrer ça, eux, en tant que metteurs en scène. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une sorte de fonction allégorique de cette fête, qui est la fête, c'est aussi le tournage, c'est aussi la nuit américaine, voilà, il faut que tout tienne ensemble. Et pourquoi pas? Et pourquoi est-ce qu'on, pour autant, on n'est pas emporté? Je pense que c'est parce qu'il n'y a que des patrons dans ce film. Moi, c'est ça qui m'a... J'ai eu l'impression de voir tout ça avec un écran devant moi, et l'écran, c'était Bacri, faisant un plaidoyer permanent pour le petit patronat dans ce film ultra macroniste, voilà, avec des employés qui foutent le bordel, si je peux citer.
Le président
voilà,
de la République.
C'est exactement ce qui lui arrive. C'est ce qui lui arrive. Et du coup, il y a même le terme état d'urgence qui arrive quand la viande se révèle mauvaise. Donc, tout est là. Et je trouve quand même, il y a ce fond un peu déplaisant de il n'y a que le petit patron pour mener à bien cette entreprise. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en face? Des bourgeois qui sont, eux, les clients, donc aussi des patrons. Donc quand on veut passer à un autre personnage, en fait, on a le marié qui est un jeune grand bourgeois très méprisant. Et voilà. Et donc on n'arrive pas à... Enfin, moi, je n'ai pas réussi à trouver, malgré le foisonnement d'acteurs qui ont envie d'être là, de personnages, etc., de personnages à qui m'accrocher vraiment, parce que je n'ai vu que des patrons, quoi. C'est...
Problème de rythme, je vous suis là-dessus. Mmh. Presque deux heures, c'est peut-être quand même la durée peut-être un peu responsable de ce problème-là, parce qu'il y a quand même des ventres mous. Pour le reste, moi je dirais, pour être plus indulgent, que la force et la faiblesse du film, c'est d'être exactement ce à quoi on s'attend qu'il
fût.
Mmh. Merci, je ne sais plus où j'étais au niveau des temps. Moi je trouve que c'est... une bonne comédie, plutôt bien jouée, avec des répliques qui font mouche, avec... bon, j'aime bien aussi qu'on respecte les trois unités voilà, de temps, de lieu d'action. Donc ça, c'est une chose qui me réjouit plutôt. Et c'est vrai que Jean-Pierre Bacri, alors peut-être que j'ai raté un certain nombre de films dans lesquels il jouait ces dernières années, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu à cet endroit précis de son emploi, tel qu'on le connaît en effet, tel qu'on l'aime depuis, enfin moi en tout cas depuis de nombreuses années, puisqu'il a participé, à l'écriture du scénario et donc de ses propres dialogues. C'est vrai que c'est du sur-mesure et que moi j'ai pris du plaisir à le retrouver là, dans cet emploi-là, qui lui va si bien. Sur le fond, j'entends bien, et il y a eu beaucoup de critiques qui allaient dans ce sens, une critique politique du film, sur la défense, l'illustration du petit patronat, le méchant URSSAF, etc. Oui, je vais revenir là-dessus, la Disney de Louis de Funès, c'est déjà une... alors on disait, ah oui, c'est du cinéma réactionnaire, alors la comédie populaire est-elle forcément réactionnaire? Là, on va une thèse de doctorat à faire, mais qui a certainement été faite, Charlotte Garçon.
Mais bon, il vous aura pas échappé que ce château, etc., fait quand même penser au château de la règle du jeu. Je pense qu'eux-mêmes y ont pensé, évidemment.
On peut voir des châteaux sans penser à la règle du jeu.
Mais
vous savez.
C'est une fête à la Collinière. C'est quand même. Et si vous remarquez, le grand bourgeois organisateur dans la règle du jeu, il est, on le déteste et on l'adore, je veux dire. Et arriver à créer des personnages.
Je le déteste juste. on n'adore pas.
Voilà, ici, le problème, c'est ça. C'est qu'ils ont beau aimer leurs acteurs et aimer tout le monde, je trouve qu'ils ne rendent pas désirable cette image de la francité qu'ils présentent. Chaque individu, aucun n'est vraiment désirable. Alors que Renoir prenait le risque de faire de ce grand bourgeois quelqu'un de tellement complexe, profond, émouvant, pathétique, que voilà,
c'était... Ah, j'ai oublié de donner la parole à Boris Pinault, qui avait un commentaire à nous faire entendre.
Le retour de Violette Villard, qui écrit sur un film un peu cliché qui force le trait du melting pot, mais le tout glisse avec une leste fluidité vers une comédie savamment rythmée qui pointe nos points d'échappée et nos névroses libératrices réjouissants.
Ah bon, réjouissants, des sentiments un peu différents. Bon, en fait, on aurait eu plus à dire que ça sur le sens de la fête. Le débat commence à prendre, mais bon, on doit s'arrêter là car c'est l'heure d'aller faire la fête pour nous, bien sûr. Sens de la fête d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Et on conclut cette émission avec le jeu de la dispute. D'abord, Grégoire Di Fiore va nous rappeler la question du jeu d'hier au soir.
Quel est le nom de la récompense remise par le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou ?
Et la réponse est...
L'étalon d'or.
Ce soir, faire gagner des DVD du film Félicité d'Alain Gomis, distribué par Jour de Fête. La question est...
Quel oiseau a donné son nom au mouvement fondé par Pierre Rabhi et Cyril Dion ?
Votre réponse, ah oui, parce que c'est pas du tout ça qu'on a fait gagner, c'est le livre Imago de Cyril Dion, Félicité d'Alain Gomis, c'était hier, pardon, j'ai dit des bêtises. Donc la réponse, vous pouvez redire la question du coup, comme j'ai dit bêtises.
Quel est le nom de la récompense d'aujourd'hui ?
Oui, oui.
Quel oiseau a donné son nom au mouvement fondé par Pierre Rabhi et Cyril Dion ?
Voilà, autant pour moi. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr, à la page de la dispute, sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et bien sûr vous abonner à son podcast. Préparez vos commentaires sur Facebook, la dispute FC, ou pendant le direct sur le compte Twitter, dispute FC. Lundi, 19h, dispute danse, avec Manu Farine, Florian Guettet, Philippe Noisette. Nous parlerons de Gala, de Jérôme Bell, de la mécanique de l'histoire de Johann Bourgeois et de l'événement Alain Buffard au Centre National de la Danse.